C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
C'est presque un tour du monde de l'engagement citoyen pour la préservation de l'environnement que nous vous proposons aujourd'hui. Dans quelques instants, vous découvrirez les magnifiques lauréates du prix Terre de Femmes qui s'engagent pour la sauvegarde de la biodiversité. Dans la deuxième partie de l'émission, nous rencontrerons des ornithologues qui se battent pour faire leur travail en Cisjordanie. Nous irons au Togo faire de l'éco-jogging et nous découvrirons une héroïne africaine, Mia Moke, qui sensibilise les enfants à la protection de leur environnement.
C'est pas du vent sur RFI.
Elles sont 10, elles ont toutes reçu le prix Terre de Femmes dans leur pays respectif. Puis vient le moment tant attendu du Grand Prix international décerné à l'une d'entre elles. Leur point commun, elles se sont toutes lancées dans un projet qui préserve la biodiversité et qui améliore le quotidien des femmes. Pour la 16e édition, la grande gagnante est une Française. Laure Bottinelli a travaillé 5 ans dans l'humanitaire comme spécialiste de l'eau et de l'assainissement avant de poser ses valises en Haïti pour créer son entreprise Anna Kaona.
Après plusieurs années passées en Haïti, c'est vrai qu'on prend conscience de plein de belles choses du pays, mais aussi de beaucoup de difficultés. Et on vit quotidiennement en Haïti, et surtout à Port-au-Prince, qui est la capitale, dans un environnement, on peut dire, assez insalubre, et avec des déchets qui font partie de notre quotidien. Parce que Port-au-Prince, c'est seulement 20% des déchets qui sont collectés chaque jour au niveau de la commune. Donc on vit quotidiennement avec 80% des déchets. Et parmi ces déchets, quand on sait que les hôtels qui respectent les standards internationaux d'hygiène se doivent de jeter les bouts de savon usagés utilisés par les clients, eh bien force est de constater qu'une partie de ces déchets, donc ces savons, finissent eux également dans la rue. Pour certains hôtels qui doivent donc respecter les mesures d'hygiène, il y a des centaines de chambres et tous les jours des savons sont jetés à la poubelle.
Du coup, vous avez monté votre entreprise et aujourd'hui vous travaillez avec 35 hôtels auprès desquels vous ramassez les savons. Que deviennent ces savons ?
Oui, donc en effet, depuis janvier l'année dernière, on est partenaire avec une trentaine d'hôtels en Haïti, dans trois régions, donc à Jacmel, dans le sud, dans le sud-est, à Port-au-Prince, sur la côte des Arcadins, et on commence au Cap-Haïtien, dans le nord. Donc tous les mois, on vient récolter les savons qui ont été mis de côté tous les jours par les femmes de chambre. On amène ces savons usagés dans notre atelier, à Port-au-Prince, où ces savons sont recyclés, assainis, retravaillés par nos femmes employées. Donc il y a plusieurs phases d'assainissement pour rendre le savon propre et ensuite différentes phases de production pour en faire un nouveau savon.
Du coup, vous avez créé des emplois ?
Oui, c'est une de nos plus grandes fiertés, c'est vrai, pour le moment. On a actuellement 4 personnes, 3 femmes et un homme qui est notre chauffeur, qui travaille depuis 7 mois maintenant avec nous. Et depuis quelques semaines, on a nos ambassadeurs de l'hygiène. C'est des hommes et des femmes qui vont travailler auprès de nos écoles partenaires pour aider ces écoles à les accompagner de façon convenable et durable dans un changement de comportement lié à l'hygiène.
Oui, parce que qu'est-ce que vous faites de ces savons une fois qu'ils ont été fabriqués ? Ils ne restent pas, évidemment, dans un hangar.
Non, bien sûr que non. On en fait 2 choses. Premièrement, on les donne dans nos écoles partenaires suite à un pacte qui a été créé entre Anna Kaona et l'école. L'idée, on le sait, en Haïti, il y a énormément de choses qui sont données gratuitement par des ONG, par des organismes. L'idée, c'était pas de continuer à créer de la dépendance, mais vraiment de faire un pacte avec les écoles qui, dans un premier temps, les professeurs acceptent d'être formés sur des cours à l'hygiène et acceptent d'intégrer ces cours dans leur cursus et donc chaque mois de faire des cours sur l'hygiène. Une fois que ça fonctionne et qu'on voit que les élèves ont ces leçons-là, on distribue en effet du savon pour les enfants pour qu'ils puissent se laver les mains. Et ensuite, quand cette phase est en place et fonctionne bien, on distribue aux écoles des filtres en céramique. C'est une méthode de filtration d'eau, il y en a plusieurs. Cette méthode-là qui permet d'éliminer pratiquement à 100% les bactéries et les protozoaires. Haïti, c'est un pays qui depuis 6 ans, 7 ans maintenant affecté par le choléra, utilise du chlore dans l'eau, où les gens boivent de l'eau traitée mais de façon assez agressive et chimique. Et les filtres en céramique permettent de rendre l'eau potable de façon plus naturelle.
Et vous avez fait attention aussi à l'impact du savon que vous créez, puisque l'idée, c'était pas de créer un nouveau déchet.
Exact. Donc, les savons qu'on donne aux écoles, c'est des savons à l'état brut. Mais il y a une deuxième partie. Donc, il y a des savons que l'on raffine avec des produits haïtiens, comme le fruit de la passion, l'amande douce, le café haïtien, qui est d'une très bonne qualité, le moringa. Et tous ces produits haïtiens, on les met dans notre nouveau savon que l'on crée et que, par exemple, c'est ce que vous disiez, en effet, notre emballage, notre packaging, on ne veut pas de plastique. On ne va pas importer du plastique de la République dominicaine ou des États-Unis, donc on utilise du sisal. C'est une plante un peu comme le cactus. À l'époque, on faisait des cordes avec le sisal. Donc, c'est cette matière-là qui nous permet d'emballer notre savon. Donc, si demain, quelqu'un prend notre savon avec l'étiquette, l'emballage et le jette dans la rue, eh bien, il est 100% biodégradable, ce savon. Donc, on ne rajoute pas des déchets avec notre produit.
Et donc, où est-ce que l'on peut acheter vos savons ?
Donc oui, les personnes en Haïti qui veulent nous soutenir et acheter nos savons, ils peuvent aller dans différentes boutiques en ville. Par exemple, on est dans la boutique qui soutient l'artisanat local La Koulakaï, dans l'hôtel de la Lorraine. Les gens peuvent aussi nous contacter via notre site internet www.anakaona.org et via un mail, on peut rentrer en contact et vendre du savon. Et puis ensuite, venir à notre atelier à Delma 83, découvrir les femmes au travail et acheter en direct de l'atelier nos produits.
Vous expédiez à l'étranger ?
On est en train de commencer, oui, tout doucement mais sûrement.
Direction le Mexique maintenant avec Cecilia Sanchez Garduno. C'est au cours de son doctorat en écologie il y a une vingtaine d'années que Cecilia a découvert les multiples vertus de la noix Maya Hoche. Depuis, elle travaille avec les communautés pour lui redonner sa vraie valeur.
C'est une précieuse ressource des forêts pluviales au Mexique et en Amérique du Sud. Cette noix était utilisée comme un aliment traditionnel, mais sa consommation avait été oubliée depuis des années, donc nous lui redonnons sa valeur.
Et cette noix, elle a une vraie valeur tant nutritionnelle que pour la préservation de l'environnement, la qualité des sols.
Oui, elle est considérée comme un super aliment. Elle est très nutritive. Elle contient de nombreux antioxydants, du calcium, des protéines. C'est l'alimentation principale de la faune sauvage. Elle nourrit 85% de la faune sauvage et des forêts pluviales.
Alors, comment est-ce que vous avez travaillé depuis 20 ans avec les femmes pour relancer la production de cette noix ?
Tout a commencé avec l'Institut de la noix Maya qui a créé des ateliers de cuisine avec les femmes. C'était un bon moyen pour aller dans les communautés. C'était des ateliers d'une journée durant lesquels nous avons pu récupérer de nombreuses recettes et de nombreux usages traditionnels de la noix d'Hoche.
Et ça concerne combien de femmes aujourd'hui ? Vous travaillez avec combien de femmes ?
Durant ces ateliers, nous avons travaillé avec environ 400 femmes. Mais j'ai une équipe composée de 8 responsables qui ont elles-mêmes leur propre équipe dans tout le pays. Leur nombre est incalculable, mais elles sont très nombreuses.
Est-ce qu'au bout de 20 ans de ce travail, vous avez l'impression vraiment d'avoir réussi, d'avoir atteint vos objectifs ?
Je suis vraiment satisfaite. Oui, je suis très heureuse parce que nous n'avons semé qu'une toute petite graine et les femmes des communautés ont fait tout le reste. Ce sont elles qui m'inspirent et qui me motivent pour continuer chaque jour. Même si nous avons reçu beaucoup de soutien jusqu'à obtenir ce beau prix, c'est l'énergie de ces femmes qui m'encourage. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires, mais ces femmes sont vraiment incroyables.
Et est-ce que du coup, il y a eu une reforestation ? Est-ce que les arbres qui produisent cette noix ont été replantés ? Parce que c'était aussi l'un de vos buts.
Ce projet est un cercle vertueux parce que quand nous organisons une journée d'atelier, les femmes sont très intéressées, très motivées. Du coup, elles commencent à planter des arbres. Il s'avère que l'année dernière, elles ont utilisé l'arbre de la noix Maya comme bois de chauffe. C'est très triste, mais elles ne savaient pas ce qu'elles perdaient. Donc dès qu'elles redécouvrent tout ce savoir, elles commencent à planter des arbres et à les protéger. Elles gagnent aussi de l'argent avec les produits alimentaires qu'elles fabriquent à partir des graines qu'elles ont plantées.
Some money by producing value-added products from the seed they eat.
Il y a aussi une dimension culturelle à votre projet pour ne pas perdre la tradition.
Oui,
ce projet s'appuie sur les trois piliers de développement durable, social, économique et écologique. Mais il est aussi durable dans le sens où il perpétue des traditions. C'est sa dimension culturelle. C'est un très bon projet pour les enfants, pas seulement parce que cette graine nourrit leur corps, mais aussi parce qu'elle nourrit leur esprit. Ils redécouvrent le savoir de leurs ancêtres.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Thank you. Merci.
Anan Lacheab est productrice d'huile d'olive dans la commune d'Aïn Beda, au nord du Maroc, à l'est de Fès. Elle a réussi à fédérer plus de 300 femmes autour d'un groupement économique pour fabriquer une huile de qualité et replanter des arbres par milliers.
Notre groupement, elle regroupe ces communes rurales. Et donc, on travaille avec la femme rurale sur place parce que c'est elle qui travaille sur l'olivier. C'est elle qui ramasse les olives, c'est elle qui triture. C'est pour ça notre programme, notre projet, c'est de l'amélioration de capacité de femmes dans ces villages.
Grâce à votre coopérative, vous avez donné du travail et donc une dignité à ces femmes qu'elles n'avaient pas avant.
Ah oui, bien sûr. Maintenant, la femme, c'est elle qu'elle a de revenir. Et donc, avec d'argent, elle a fait beaucoup de choses. S'occupe des enfants, de ses familles. C'est pas comme avant.
Elle dépend moins de son mari. Donc.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, elle est très, très dépendante.
Elle est indépendante et donc ça redonne une fierté.
Ah oui, bien sûr, une fierté. Il y a deux choses de la fierté. Première chose, c'est un travail dur. Travaille normalement d'homme, mais c'est elle qui fait ce travail. Elle fait une bonne huile de qualité extra vierge, biologique, beaucoup de certificats sur ce produit. Et bien sûr, elle a d'argent derrière. Et donc, elle est très fière.
Et qu'est-ce qui fait que cette huile est biologique? Qu'est-ce que vous avez changé dans la façon de cultiver l'olive?
Le début, c'est les formations. Nous avons fait beaucoup de formations pour les femmes. C'est-à-dire, déjà, notre olivier, elle est naturelle. Elle est biologique d'habitude, normalement. Mais il y a bien sûr des produits chimiques, surtout avec ce changement climatique. Mais lorsqu'on a fait des formations aux femmes, on dit voilà, si tu laisses un arbre d'olive comme ça, avec juste du fumier, ça donne une huile de bonne qualité, il s'appelle bio. Comme ça, c'est simple, avec une simple manière. Sinon, si tu ajouteras d'engrais et tout, et donc ça sera une autre huile. Ce n'est pas bon pour nos santé et bien sûr pour les autres. Ça sera une simple manière. Après, bien sûr, avec le bonus de bio, parce que le prix de bio, ce n'est pas comme l'autre. Et là, vraiment, elle est fière de travailler avec le bio.
Et comme ça se vend plus cher, j'imagine que ça a été facile de les convaincre.
Ah oui, bien sûr. Surtout dans le Maroc. Il y a tous les huiles, ils sont à peu près même prix. Mais lorsqu'on a ajouté des labels, soit bio, soit IGP, soit autre, vraiment, il y a une bonus. Et donc, ça sera bien.
IGP, c'est indication géographique protégée. Ouais. Et chaque année, vous plantez des arbres ou des plantes, mais dans des proportions assez importantes.
Ah oui, bien sûr, nous avons déjà le début de ce projet avec Pure Projet, une société française. Nous avons démarré en 2011 avec 30 000 arbres d'oliviers. Mais après, nous avons planté 6 000 figuiers. Et chaque année, nous avons un programme de planter quelques milliers d'arbres.
Et votre ambition pour l'avenir, pour la suite, c'est quoi ?
Travailler surtout beaucoup sur les déchets des huiles. Parce que lorsqu'on dit huile d'olive, on dit déchets. Déchets, c'est margines et grignons.
Et notre... C'est-à-dire la pulpe d'huile d'olive et les noyaux un peu cassés, oui. Après la pression.
Oui, oui, c'est ça. Vraiment, c'est notre projet que nous avons déjà le début de cette année.
Vous voulez le réutiliser comment ?
Normalement, il y a beaucoup de méthodes, soit de animaux de bétail, soit engrais, soit pour chauffage. Nous avons déjà travaillé sur le chauffage, ça sera très très bien, mais les autres, c'est notre avenir projet.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Rek Raquel Gaspard est biologiste marine. C'est en travaillant sur les dauphins qu'elle découvre la fragilité des prairies marines de la réserve naturelle de l'estuaire du Sado. C'est au sud de Lisbonne. 55 hectares à préserver avec l'aide de la population locale.
On a créé une coopérative qui s'appelle Ocean Alive. Cette coopérative a une mission qui c'est de transformer les comportements des gens qui vivent autour de l'estuaire pour la protection de ces estuaires. En fait, c'est l'estuaire avec de plus vie marine en notre pays.
Donc c'est un estuaire où il y a une grande biodiversité, il y a notamment des dauphins.
Oui, il y a une population des grands dauphins qui là vivent. Et moi, j'ai commencé à étudier ces dauphins en 1994. Et j'ai appris avec mon doctorat que pour sauver ces dauphins, il faut sauver les prairies marines, un habitat des plantes marines qui donnent la nourriture aux dauphins et à la communauté pêcheur aussi.
Donc, vous avez commencé à sensibiliser les habitants autour, notamment à la pollution marine. Donc, tous les mois, vous organisez des ramassages de déchets sur la plage.
Oui, on a commencé en mars de l'année dernière. Une fois par mois, on a des volontaires, 872 volontaires, qui ramassent les déchets marins. Et aussi, on parle avec des pêcheurs qui ramassent le coteau avec du sel.
Oui, parce qu'en fait, il y a une mauvaise habitude dans cet estuaire, c'est que les pêcheurs ont pour habitude de mettre du sel pour faire sortir les couteaux, qui sont donc ces coquillages qui contiennent un animal que l'on mange. Et la mauvaise habitude, c'est que ce sel, il est dans des bouteilles en plastique. Et en fait, une fois que la bouteille est vide, il la jette dans la mer. Et du coup, vous avez collecté un nombre incroyable de ces petites bouteilles qui sont des plastiques qui se dégradent dans la mer.
Oui, on a déjà récolté 28 000 bouteilles de plastique. Et notre mission, c'est de changer cette mauvaise habitude. Et la manière qu'on fait, c'est d'engager les femmes pêcheurs. On leur donne une nouvelle fonction de donner exemple de bonnes pratiques à d'autres pêcheurs. Et ce travail a commencé à donner les résultats.
Vous transformez donc des pêcheuses en gardienne de la mer et elle sensibilise les pêcheurs, mais aussi les étudiants, les enfants. Ça leur donne un emploi aussi, parce que comme l'écosystème était un peu fragile, il y avait de moins en moins de poissons, donc elles avaient perdu leur emploi. Donc non seulement ça leur redonne un emploi, et en plus ça leur donne une fonction pour défendre l'environnement.
Oui, on a formé une pêcheur pilote comme un guide marin, et on a mettre en marche un programme éducatif pour les touristes, pour les étudiants. Et comme ça, les pêcheurs peuvent gagner d'argent complémentaire pour peut-être un jour avoir même une nouvelle profession.
Vous avez aussi pour objectif de créer une carte des prairies marines. Et pour cela, vous utilisez les pêcheurs en leur demandant, avec des GPS, de tracer là où ils trouvent ces prairies pour que ce soit ensuite transmis à des scientifiques. Finalement, l'idée de votre projet, c'est d'utiliser les gens qui vivent dans cet estuaire pour le défendre.
Bon, c'est ce que je crois. Je travaille toujours pour créer un exemple pour mon pays, pour les autres gens, que la communauté qui dépend directement d'un habitat, elles peuvent transformer sa vie, son comportement pour le protéger.
Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup à vous.
Laure, Cécilia, Annan et Raquel ont toutes été récompensées par le prix Terre de Femmes, qui en 16 ans a déjà distingué 350 femmes engagées dans la protection de l'environnement. Vous pourrez retrouver leurs contacts sur la page de l'émission. Restez sur RFI, on se retrouve juste après le flash d'info pour apprendre à faire de l'éco-jogging et découvrir une nouvelle amie pour les enfants, Mia Moquet. A tout de suite.
Carrefour de l'Europe.